Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces.
Monde Numérique, spécial CES de Las Vegas.
Deuxième jour du CES de Las Vegas sur Monde Numérique, à suivre en audio dans ce podcast et aussi en vidéo sur les réseaux sociaux, sans oublier la newsletter. Cet épisode de Monde Numérique vous est proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Free Pro qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre le CES 2024. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot de l'expérience qu'il faut vivre cette année à Las Vegas. Évidemment, je veux parler de la sphère. Vous savez, cette énorme boule plantée désormais au milieu de la ville. Elle fait plus de 100 mètres de haut, 150 mètres de large. Et en réalité, c'est une salle de spectacle à l'intérieur. Un spectacle avec un écran sphérique, le plus grand écran sphérique du monde. Et à l'extérieur, la particularité, c'est que c'est aussi un écran totalement sphérique. La totalité de la surface est recouverte de LED qui affiche toutes sortes d'images, alors des smileys géants, des planètes, et on voit ça d'avion quand on arrive à Las Vegas. C'est monumental, ça a coûté plus de 2 milliards de dollars de construction, ça a ouvert tout récemment, en septembre dernier, et j'ai eu la chance hier soir d'aller assister à une projection. Alors j'étais pas tout seul, il faut bien le dire, il y avait en gros toute la presse tech, notamment française, et à la sortie, eh bien, j'ai demandé à mes petits camarades journalistes tech de BFM Business et Tech & Co, leurs sentiments et leur analyse, voilà, jusqu'à ce qu'on se fasse virer en fait de la sphère, parce que le protocole, c'est le protocole hein, aux États-Unis. Écoutez leur réaction. Anthony Morel, Frédéric Simotel, et vous, rappelez-moi votre nom.
François Sorel, François, mais ça arrive avec Simotel, t'as vu.
Et avec
Morel aussi.
Et avec Morel.
Ça, c'est très bien.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, Anthony?
Bah, j'ai trouvé ça incroyable. Bah, l'adjectif, tu sais, les Américains, ils disent jaw-dropping. Ça, c'est la mâchoire qui tombe par terre. Moi, j'ai trouvé ça complètement fou. J'ai rarement vu un truc pareil. C'est-à-dire qu'au début, en plus, c'est déceptif, tu sais, parce que tu commences. T'as l'impression d'avoir un écran de cinéma en face de toi. Tu dis bon, ok, d'accord. Et quand ça commence, le spectacle, t'as cette sphère qui s'allume et en fait, tout l'écran s'agrandit à l'échelle à 360 degrés.
C'est la planète Terre qui apparaît comme ça d'un coup. Ouais. C'est impressionnant.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on est dans des lieux un peu plus particuliers, des lieux touristiques qu'on a pu visiter, tout ça, c'est que même avec nos yeux, là, quand on y est réellement, on voit pas ce qu'on voit là.
C'est
sur
mieux
l'écran.
Qu'en vrai. Tu sais, il y avait la cathédrale de Florence, je crois. Ouais, j'y suis allé pourtant en vrai. C'est mieux quand j'y suis allé en fait.
Bon, ça vous rappelle pas un peu, alors je vais faire le côté franchouillard, mais ça rappelle un peu la géode quand même.
Ça rappelle aussi le futuroscope aussi, parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'il faut bien nous dire qu'on a l'impression d'être dans un vaisseau et d'avancer. Parce qu'ils nous mettent des images. Voilà, alors heureusement, ça va à la bonne vitesse, parce que si ça allait un peu plus vite, on serait peut-être un petit peu dérangé. Mais
c'est la géode à version 21e siècle, quoi, avec une qualité d'image, une qualité de son. Complètement folle en fait.
Ouais. Et puis en plus t'as un torticolis, je sais pas si moi j'ai mal au cou parce qu'en fait tu regardes tout le temps au-dessus. En fait il y a une espèce de liberté du regard qui est impressionnante, mais c'est vrai que ça fait penser à la géode, mais avec une qualité d'image là, franchement on est immergé vraiment dans le truc, c'est fou. Et moi ce qui me fascine, c'est la capacité de captation aujourd'hui de ces images, et avoir une qualité comme ça restituée, c'est dingue.
Techniquement, c'est des écrans 16K. Il y a 57 000 m² d'écran. Ouais, et c'est une prouesse technologique.
C'est un bijou de technologie, c'est dingue. Alors, on est là pour le CES, mais en fait, la principale attraction, c'est presque ça, quoi. Si tu veux la sphère. Et en plus, au-delà des écrans, t'ajoutes aussi le côté les sièges qui t'envoient des sensations. Ouais. Là, quand t'as un moment, t'as un éléphant qui arrive. Là, je sais pas, moi, c'est un des moments que j'ai préféré. Là.
Avec les girafes.
Avec les girafes aussi, où tu ressens le passage de l'éléphant, c'est incroyable. Quoi.
Et puis, faut pas oublier que le spectacle, il est aussi à l'extérieur. C'est-à-dire, quand on se promène à Vegas, la première chose que l'on voit quand on arrive de l'aéroport, alors on regarde tous ces grands hôtels et on voit cette boule là qui se dégage. Et même là, quand on est arrivé tout à l'heure pour le spectacle, il l'avait fait en forme de planète. Là, on a l'impression d'avoir une grosse étoile. On a l'impression de voir la Lune à l'horizon, mais la Lune tout proche comme dans les films de science-fiction.
Ouais, les Américains arrivent quand même encore à garder le leadership sur le spectaculaire.
Bien sûr. Mais après, ça pose plein de questions. La consommation électrique, je veux dire, c'est un peu...
Alors, il faut qu'on bouge, là.
On est en train de se faire dégager.
Ok, thank you. Ça rigole pas. Hein. Bon, merci les amis. On se fait virer là, mais c'était cool. Merci bien pour le débrief. Voilà donc pour la sphère, mais on va revenir maintenant au cœur du sujet, le CES lui-même et les annonces qui sont intervenues au cours de la journée d'hier. Alors, le CES, en fait, n'a pas encore ouvert. Hein. Je le répète, il ouvre mardi 9 janvier, au matin pour Las Vegas. Ce sera donc mardi soir en France. Mais il y a tout l'avant CES, et notamment ce qu'on appelle les Media Days aussi, toutes ces journées, ces présentations qui sont destinées principalement à la presse. Et hier, lundi, eh bien, c'était les conférences de presse. Traditionnellement, tous les grands acteurs de la tech monopolisent des immenses salles de bal dans les hôtels un peu partout à travers la ville pour présenter leurs nouveautés. Alors en fait, plus que des nouveautés et des produits qui seront véritablement lancés dans les mois qui viennent, ces conférences de presse sont à chaque fois l'occasion de faire passer de grands messages, de grands concepts sur les directions dans lesquelles veulent aller telle ou telle entreprise. Bon, la première difficulté pour ces conférences de presse, quand on est journaliste, pour la petite histoire, c'est quand même de les trouver parce que et d'y accéder, puisque comme je le dis, elles sont éparpillées dans les différents hôtels, ces hôtels qui sont gigantesques. On dit hôtel, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec les hôtels à l'européenne. Hein. Ce sont des resorts, ce sont des immenses bâtiments dans lesquels il y a des casinos, des restaurants et aussi accessoirement des chambres d'hôtel. On est dans des proportions et dans des dimensions incroyables, puisque chaque hôtel compte entre 4 et 5 000 chambres. Bref, ça c'est pour le décor des chambres et aussi des immenses salles de réception, des salles gigantesques, des salles de bal en réalité. Je me souviens il y a très longtemps avoir vu Bill Gates dans l'une de ces salles de bal. C'était peut-être des premières fois où je venais au CES et c'était évidemment très impressionnant. Alors voilà, pas facile, on traverse des couloirs interminables, on monte des escalators gigantesques et avec un peu de chance, si les gens à qui on demande dans quelle direction il faut aller ne se contredisent pas les uns les autres, on finit par trouver les fameuses salles de conférences de presse. On a l'impression d'être à des conférences de l'ONU ou des sommets internationaux, il y a des dizaines de caméras, il y a des milliers de journalistes. Alors il y avait donc les conférences de tous les poids lourds, hein. LG, TCL, Samsung, Panasonic, Sony, Nvidia, etc. J'ai réussi notamment à atteindre la conférence Samsung dont je vais vous parler maintenant. Intéressant, Samsung, un mot d'ordre, puisque et qui incarne totalement la thématique dominante au CES, c'est Objectif Intelligence Artificielle. AI for All, c'est leur slogan, de l'IA pour tout. Alors, ils disent pas pour tous, d'ailleurs, mais c'est vraiment pour tous les produits. Ils en mettent absolument partout. Ils sont pas les seuls. On va parler d'IA pendant toute la semaine, puisque c'est le truc du moment. Et il y a de l'IA partout, à la fois pour des raisons marketing, ne nous mentons pas. C'est le thème du moment après l'année 2023 qu'on a vécu. Il faut mettre de l'IA dans tous les produits. Il y a beaucoup de communication, d'éléments de communication, mais c'est aussi une réalité technologique. On le sait, l'IA et les différentes formes de l'intelligence artificielles sont arrivées aujourd'hui à une certaine maturité intéressante qui permet de les intégrer dans des tas de produits. Par exemple, chez Samsung, on va mettre de l'IA dans un petit robot pour la maison, avec une nouvelle version du robot Bali, B-A-2-L-I-E, comme une boule, donc. Ils avaient déjà présenté ça en 2020, ce n'est pas sorti commercialement. C'est un assistant intelligent en forme de boule, un petit ballon de football, une sorte d'Alexa à roulette qui vous suit partout dans la maison et auquel vous pouvez poser des questions, parler, il peut amuser le chien, il ne peut pas sortir le chien, malheureusement, mais il peut surveiller l'appartement quand vous n'êtes pas là, il y a une caméra, etc., etc. Donc Samsung continue à dérouler le fil de l'IA et de la robotique. Reste à savoir si on va vraiment vers des choses grand public ou si on est encore sur le concept. L'IA aussi dans la cuisine, jusqu'au fin fond du frigidaire, du réfrigérateur, avec par exemple une petite caméra intelligente qui va détecter automatiquement les aliments que vous mettez dans le réfrigérateur et pour vous proposer ensuite des recettes. Ils ont même ouvert un service de recettes, Samsung Kitchen, qui permet, en fonction des aliments qu'on a, de cuisiner des trucs. Il faut savoir que le principe de mettre des caméras dans les réfrigérateurs, c'est très ancien chez Samsung et aussi chez LG. Ça se pratique, c'est une réalité aujourd'hui en Asie, en Corée en l'occurrence, beaucoup moins en France, il faut bien le dire. Quant à la promesse d'un réfrigérateur intelligent qui sait ce que vous avez dans le réfrigérateur, qui sait ce que vous avez comme provision et qui permet de les recommander automatiquement, ça reste encore au stade de la promesse, malheureusement. Du côté des grands acteurs coréens, Samsung, LG, etc., TCL aussi, donc pas mal d'annonces concernant la télé. La télé reste évidemment un élément vedette au CES de Las Vegas. Eh bien, les deux Coréens, Samsung et LG, ont présenté des téléviseurs transparents. Ça aussi, c'est un concept qui est un peu ancien, mais la nouveauté, c'est que ces deux marques capitalisent désormais sur leurs technologies respectives pour les téléviseurs. On est sur de l'OLED chez LG et on est sur du QLED et du microLED chez Samsung, ce qui permet de monter en qualité avec des appareils dont la transparence est améliorée, la qualité d'image également. Même s'il reste une question, on se demande bien à quoi peut servir un téléviseur transparent. Et j'ai vu pas mal de mes confrères se poser cette question. Malgré tout, la réponse, il faudrait peut-être aller la chercher ailleurs. L'idée, c'est peut-être pas tant de faire des téléviseurs qui permettent de voir le pot de fleurs qui est derrière, mais peut-être plutôt demain, eh bien, des vitres pour la maison qui afficheraient toutes sortes d'informations. Ou même, c'est peut-être à rapprocher d'un autre concept qui a été présenté, un concept de navigation GPS pour la voiture en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un écran qui vous montre avec des flèches où il faut aller, eh bien là, vous avez vraiment les flèches qui s'affichent sur la route en fonction de là où vous êtes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent en fait sur le pare-brise. Je ne dis pas que les écrans transparents vont se transformer en pare-brise de voiture. Il n'y a aucune information de la part de Samsung là-dessus, mais moi, ça m'a fait penser à ça. C'est une idée qu'on va creuser parce que je sais qu'il y a un autre exposant français qui propose des trucs intéressants. Je vous en reparlerai dans le courant de la semaine. Je dois les voir demain ou après-demain. Voilà, du côté de LG, on met de l'intelligence artificielle aussi pour upscaler, c'est-à-dire augmenter artificiellement la qualité d'une source vidéo. Vous lui mettez en gros une vieille VHS, alors une vieille VHS, je pense pas, mais une qualité d'image pas terrible et elle va l'afficher de manière magnifiée sur votre écran 4K ou 8K. Ça aussi, c'est un concept ancien. Ça fait plusieurs années déjà que les fabricants de télé mettent de l'IA dans leur téléviseur. Bon, on aura l'occasion de reparler de télé parce que j'ai pas tout vu. Il va falloir maintenant, après ces conférences de presse très futuristes, très conceptuelles, aller sur les stands, voir exactement à quoi ça correspond et ce qu'il y a d'intéressant et de nouveau. Et puis, il y en a un qui n'est pas là, un acteur important qui n'est jamais présent sur les salons, mais qui aime bien quand même continuer à faire parler de lui, c'est Apple, puisque Apple ne participe pas au CES de Las Vegas, mais comme par hasard, il a choisi pile poil le jour des conférences de presse pour faire une annonce qui ne passe pas inaperçue, puisqu'elle concerne son futur casque de réalité augmentée Vision Pro. Bon, rien de transcendant, simplement, ils ont annoncé la date de sortie, donc ça fait un peu de buzz, ce sera le 2 février. On l'attendait, on se demandait s'il serait à l'heure. Bah, apparemment, la promesse devrait être tenue, sortie du Vision Pro le 2 février, en tout cas aux États-Unis. Vous savez, ce casque totalement immersif qui va nous plonger dans ce qu'Apple appelle l'informatique spatiale. Évidemment, il faudra avoir un budget de cosmonaute puisque ça coûtera $3,500. Et puis, encore une autre annonce, une dernière au CES de Las Vegas. Et justement, eh bien, un petit peu en réponse à Apple, c'est Sony qui a dévoilé un futur casque de réalité virtuelle, casque ou masque. Sony propose déjà des casques, il avait été le premier d'ailleurs, mais ils sont connectés, sont des produits connectés à la PlayStation. Là, il s'agirait d'un casque totalement autonome, qui n'aura pas besoin d'être relié à la PlayStation. Donc, ce serait une sorte de concurrent du Vision Pro d'Apple. Ça permettra de faire de la VR, probablement aussi de l'AR, mais qui sera a précisé Sony, destiné en priorité aux professionnels qui travaillent avec la 3D. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce casque de Sony. Voilà pour ce round-up de l'actu du deuxième jour pré-CES, en fait. Et on va maintenant redonner la parole à quelques innovateurs que j'ai rencontrés à l'occasion de l'événement CES Unveiled, des Français qui ont pas mal de choses à dire. On va parler implant cérébral, on va parler intelligence artificielle pour les chiens, oui oui, tenez-vous bien, et on va parler IA dans la salle de bain. Alors le CES de Las Vegas, c'est l'occasion de retrouver une innovation française dont on a déjà parlé sur Monde Numérique, qui nous vient du CEA, et c'est un procédé absolument étonnant qui consiste à implanter un petit appareil directement sur le cerveau pour régler certains problèmes moteurs. Bonjour Guillaume Charvet du CEA.
Bonjour, bonjour.
Oui, rappelez-nous de quoi il s'agit exactement.
Alors effectivement, cette technologie est une technologie d'interface cerveau-machine. Et en fait, l'objectif est de permettre à des patients en situation de handicap moteur, des patients paraplégiques, tétraplégiques ou des patients qui ont eu un AVC, d'avoir un moyen de contrôler différents effecteurs pour qu'ils retrouvent une certaine mobilité. Par exemple, récemment, nous avons pu montrer qu'un patient paraplégique a pu remarcher directement à partir de cette technologie d'interface cerveau-machine combinée à un stimulateur placé au niveau de la moelle épinière. Et ce patient pouvait contrôler directement par la pensée ce stimulateur pour qu'il puisse remarcher, donc contrôler sa jambe droite, sa jambe gauche. Mais par exemple, on a également un essai clinique avec un patient tétraplégique qui est capable de contrôler un exosquelette 4 membres directement à partir de son activité cérébrale. Et ça, c'est grâce à ces technologies d'interface cerveau-machine.
Alors, c'est un procédé qui est assez invasif, hein, on le voit sur votre stand, puisque c'est un capteur qui est quand même assez gros, hein, il faut bien le dire, qu'on vient greffer directement sur le cerveau. Donc, j'imagine que c'est une opération qui se fait pas sous anesthésie locale. Et le procédé consiste à stimuler en fait directement le cerveau, c'est ça ?
Alors, déjà, c'est un implant effectivement qui nécessite une chirurgie. Une chirurgie, cela dit, simple, puisqu'il suffit d'enlever un morceau d'os, on appelle ça une craniotomie, et le remplacer tout simplement par l'implant. C'est pour ça que l'implant, en fait, il remplace tout simplement le morceau d'os qui est enlevé. Et ensuite, cet implant, il fait quoi ? En fait, il est capable d'enregistrer l'activité cérébrale. Il enregistre l'activité cérébrale quand le patient va penser à réaliser un mouvement. Par exemple, le patient, il pense à lever la jambe droite, ou il pense à lever la jambe gauche, ou simplement, il pense à attraper un verre. Et en fait, on enregistre l'activité cérébrale correspondante, et grâce à un décodeur dédié, basé sur des technologies d'intelligence artificielle, on est capable de décoder en temps réel cette activité cérébrale qui est mesurée au niveau du cerveau, pour permettre par exemple à un patient d'attraper à nouveau un verre ou de bouger la jambe. Et bien ça, c'est fait directement et en temps réel grâce à cette technologie.
On est au-delà du projet, c'est déjà une réalité en fait.
Alors effectivement, on a reçu un award pour cette technologie, alors tout simplement aussi parce qu'on a pu montrer une première mondiale, c'était en mai dernier avec ce patient paraplégique qui était capable de remarcher. Cette technologie est arrivée aujourd'hui en essai clinique avec des premiers patients qui ont montré des résultats formidables. Mais aujourd'hui, notre objectif est de pouvoir diffuser cette technologie à un plus grand nombre de patients. C'est la raison pour laquelle, en fait, on va augmenter, on va réaliser d'autres essais cliniques, également faire des essais cliniques sur des patients ayant eu des AVC, pour leur permettre de pouvoir réaliser des protocoles d'entraînement pour contrôler, par exemple, et les réentraîner à réutiliser leur cerveau. Et ça, c'est également une des prochaines perspectives de l'application de cette technologie d'interface en machine. Nous avons également un essai clinique également en cours aujourd'hui avec un patient qui tétraplégique qui s'entraîne à contrôler le mouvement de sa main directement avec cette technologie d'interface en machine combinée avec un stimulateur. Et ça, c'est également des choses qui sont en cours en ce moment.
On parle beaucoup des fameux implants d'Elon Musk. Vous êtes sur le même créneau, on va dire.
Alors exactement, on est sur le même créneau. On n'a pas les mêmes approches, puisque notre implant, lui, il est positionné à la surface du cortex moteur. Il ne pénètre pas dans le cerveau. Donc c'est une approche qu'on a choisie pour limiter l'invasivité de la technologie. La technologie de Neuralink propose une approche différente où on a des électrodes qui pénètrent dans le cerveau pour aller capter l'activité de chaque neurone et pour permettre potentiellement d'arriver à contrôler des effecteurs peut-être encore plus complexes. Et ça, c'est des choses qui restent à voir puisque aujourd'hui, les essais cliniques n'ont pas démarré chez Neuralink.
C'est un procédé qui quand même peut faire peur. Je veux dire, il y a des questions d'éthique qui se posent. Jusqu'où vous pouvez aller ?
Alors, d'un point de vue éthique, tous les essais cliniques qu'on réalise respectent et sont validés par des comités d'éthique. Parce qu'on valide, en fait, et on associe, on vérifie la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que quel bénéfice on peut apporter au patient et quel risque il encourt pour ça. C'est la raison pour laquelle les essais cliniques qu'on adresse s'adressent à des patients en situation de handicap moteur sévère, patients paraplégiques, tétraplégiques, des patients ayant eu un AVC. Et bien entendu, ça c'est regardé par des commissions indépendantes, donc des comités d'éthique.
Merci beaucoup, Guillaume Charvet du CEA.
Merci beaucoup.
Alors, le CES de Las Vegas, traditionnellement, s'est consacré en grande partie à des produits pour la santé, pour le bien-être. Chez Barracoda, entreprise française, on est spécialisé dans les objets connectés pour la salle de bain. Arthur Eberhardt, vous présentez cette année au CES un nouveau produit. C'est un miroir connecté, mais qui est bien particulier.
Oui, c'est ça. En fait, ce miroir, il y a une intelligence artificielle intégrée. L'idée, donc, ça s'appelle BeMind, parce que ça prend soin de votre esprit et de l'état d'esprit. Et il va, en fait, vous poser une première question au lever, c'est comment allez-vous ? Et en fonction de votre réponse, il va catégoriser votre, pas état de santé, mais on va dire votre mood. Est-ce que vous êtes dans un bon état d'humeur ou en mauvaise humeur, et va proposer ensuite des activités comme de la méditation, va pouvoir montrer des images par exemple de chats si vous aimez voir des images de chats, et donc ensuite ça reste une IA générative, donc vous pouvez poser n'importe quelle question, vous pouvez discuter avec elle. La principale différence avec ce qu'on peut voir avec ChatGPT par exemple, c'est que tout est local, puisque l'idée c'est de respecter la vie privée, on n'envoie rien sur internet, donc le modèle est en fait réduit, on n'appelle pas ça la LLM, c'est SLM, parce que tout peut tourner en local. Ensuite, ce miroir, il garde toutes les fonctionnalités qu'on avait déjà, c'est-à-dire qu'on peut écouter la radio, on peut écouter les news, on a la météo le matin. Donc toutes ces choses-là, on peut soit le demander au miroir en lui parlant, puisque l'intelligence artificielle, elle est toujours activée, soit on interagit avec les gestes si on n'a pas envie de parler, parce que parfois, ce n'est pas naturel pour certains de parler avec un objet. Donc on peut toujours interagir avec les gestes et tout ce processing, encore une fois, est fait localement.
Alors voilà, vous insistez sur le fait que toutes les données restent localement, parce que forcément, avoir un objet connecté avec des capteurs, caméras, etc. dans sa salle de bain, ça peut quand même susciter quelques interrogations, voire quelques craintes.
Oui, complètement. C'est vraiment on se focalise sur le fait de tout faire localement et de rassurer l'utilisateur sur le fait qu'on va... Puisque ça reste... la salle de bain, c'est un environnement de vie privée qu'on peut pas être... ça peut être plus... je veux dire plus extrême, on ne veut absolument pas envoyer ça sur internet. Il peut être connecté à internet, il peut, parce que donc si on veut accéder aux radios, avoir les news ou la météo, on peut l'activer, mais ça reste des fonctionnalités qui sont assez basiques. On peut tout simplement désactiver l'accès à internet et toute l'intelligence artificielle va continuer à fonctionner. On a également tous les conseils qui sont donnés, les méditations, c'est des choses qui sont préenregistrées. Et donc, il n'y a pas de souci pour le déconnecter entièrement d'Internet.
En fait, vous avez repris un produit que vous aviez déjà, qui ne cesse de se moderniser année après année, et vous lui avez ajouté des fonctionnalités nouvelles.
Oui, exactement. C'est ça. Et la grosse nouveauté de cette année, c'est l'intelligence artificielle. On a profité de tout le travail qui a été fait justement, donc le LLM, etc., c'est des choses qu'on n'invente pas, on réutilise. Nous, notre valeur ajoutée, elle est spécifiquement sur la catégorisation de l'humeur de la personne. On a 5 niveaux et c'est donc cette catégorisation là qui est unique, et surtout unique dans le faire localement sur un miroir.
Ce produit, il est commercialisé déjà, et si oui, à quel prix ?
Non, il n'est pas commercialisé encore. Le prix, il est estimé entre 350 et 500. En fait, ça va dépendre des fonctionnalités qu'on mettra hardware, je veux dire, dans le produit, et surtout quelle taille il va faire. Ça dépendra du partenaire avec lequel on va travailler pour le vendre. Puisque, juste pour rappel, Barracoda est une entreprise, on ne vend pas directement aux consommateurs. On devient partenaire avec des entreprises comme la brosse à dents connectée, c'est Colgate. Et donc le miroir, le partenaire viendra vendre le produit, c'est lui qui choisira la taille, la forme du miroir et les différentes fonctionnalités dedans.
Oui, vous le dites, il y a plusieurs produits hein, chez Barracoda. Quelle nouvelle du tapis de bain connecté présenté l'année dernière ?
Alors, BeBalance est toujours là. En fait, là, ce qu'il y a, donc on a livré les personnes depuis l'année dernière du financement participatif. On a eu aussi des achats sur le site internet. Tout ça a été livré. On a eu beaucoup d'apprentissage, ça s'est très bien passé. Et on est en train de se focaliser un peu plus sur un usage qui s'est déclaré très intéressant, c'est pour les personnes âgées. En fait, une des premières causes d'accident, c'est les chutes. Donc, il y a beaucoup de produits qui essayent de détecter les chutes pour prévenir, pour envoyer un message, une alerte. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est des études cliniques pour en fait prévenir les chutes. C'est-à-dire que dans le cas où, par exemple, quelqu'un a déjà eu une chute ou aurait potentiellement un risque de chute, donc déclaré par le médecin qui suit cette personne, pourrait en fait utiliser la BeBalance pour régulièrement faire des exercices dessus et savoir si effectivement le risque est plus ou moins élevé et essayer justement donc de prévenir et non de guérir une fois que la personne a chuté.
Merci beaucoup Arthur Eberhardt de la société Barracoda. Et sur le CES Unveiled, on découvre encore une start-up française avec un magnifique petit chien, bon il est en peluche, hein, que vous avez entre les mains, Clément Moreau, bonjour.
Bonjour.
De la société Invoxia, spécialisée dans les objets connectés, notamment pour les animaux. Qu'est-ce que vous présentez cette année au CES ?
Donc cette année, on présente la troisième génération de notre tracker pour animal, donc qui est un tracker qui s'appelle Minitails. Et grâce à ce nouvel objet, on peut suivre la santé de nos animaux, la santé de nos chiens, de manière très facile et très utile.
De quelle manière ? Comment ça fonctionne, techniquement parlant ?
Alors, techniquement, le capteur mesure le rythme cardiaque, mesure le rythme respiratoire à travers un accéléromètre qui est dans le capteur. Donc on a un accéléromètre dedans qui regarde les mouvements du chien, même de très petits mouvements qui sont faits à l'arrêt. Et de ces très petits mouvements, on va réussir à déduire avec de l'intelligence artificielle qui est dans le capteur, mais aussi dans le cloud, le rythme cardiaque et le rythme de la respiration. Et tout ça pour découvrir aussi des maladies cardiaques. C'est-à-dire que les chiens, certaines races de chiens, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de risques de maladies cardiaques. Et dans ces races de chiens, les propriétaires vont être très contents de pouvoir vérifier que leur chien a un cœur en bonne santé et n'évolue pas trop vite vers un mauvais cœur.
Ça, c'est un système que vous aviez déjà mis au point il y a un certain temps. Mais je crois qu'il y a une nouveauté. Vous avez mis un peu d'intelligence artificielle parce que bon, c'est le thème du moment. Ce qui permet de faire des choses supplémentaires aujourd'hui.
Alors, il y a de l'intelligence artificielle à trois endroits dans le système. Dans le produit, pour faire du traitement du signal et découvrir le rythme cardiaque. Dans le cloud, pour faire aussi de la détection d'activité et la détection de santé. Donc vraiment pour trouver les maladies cardiaques. Et dans l'appli qui va avec, pour présenter ces données de manière les plus intelligibles possible. Alors, nous, on est des ingénieurs, donc on aime bien les graphiques, les diagrammes, les choses un peu compliquées avec beaucoup de chiffres. Mais il y a des gens qui préfèrent voir un texte, finalement, qui leur parle de leur chien. Et c'est aussi ça ce qu'on fait dans l'appli, où n'importe qui peut comprendre est-ce que le chien va bien, finalement, puisque c'est ça la vraie question.
On ne peut pas lui parler, on ne peut pas encore comprendre ce qu'il pense véritablement.
Alors aujourd'hui, on ne peut pas parler à son chien.
Mais... On peut lui parler, mais il ne nous répond pas de manière très très claire.
Oui, alors, en fait, on peut parler puisque la plupart des chiens comprennent très bien le français. Mais effectivement, le chien ne peut pas répondre. Et c'est parce qu'il ne peut pas répondre qu'il ne peut pas nous renseigner sur sa santé. Et ça, c'est un vrai sujet parce que même les vétos ne savent pas toujours exactement est-ce que le chien a mal, est-ce que le chien n'a pas mal. Et grâce à ce genre d'appareil, on va être capable d'avoir beaucoup plus de données sur le chien et de comprendre à travers des changements d'habitude, par exemple un chien qui va commencer à moins manger ou à moins courir, moins marcher, ça c'est signe de quelque chose qui ne va pas et c'est ça ce qu'on va traquer avec ce genre d'appareil.
On parle d'IA générative, c'est-à-dire que véritablement il y a vous arrivez à reconstituer une forme d'expression quand même des animaux. C'est beaucoup dire.
C'est pas le chien qui nous parle, effectivement, c'est bien l'IA nous sert à parler du chien et à expliquer avec des mots simples la journée, la semaine de ce chien-là.
Alors ce produit, il coûte combien et il en est où de sa commercialisation ?
Donc ce produit, c'est Minitails. Il est sorti là depuis une heure là maintenant. Donc on peut commencer à vous le livrer dès la semaine prochaine. Ça coûte 99€ le produit et il y a un petit abonnement à prendre avec.
Merci Clément Moreau de Invoxia.
Merci beaucoup.
Voilà, alors attention bien sûr avec toutes ces présentations de produits, on est face à des startups et des innovateurs qui veulent nous faire rêver. Je ne vous garantis pas que tout cela fonctionne vraiment aussi bien qu'on nous le dit. Et puis comme on est sur de la tech et de la tech de pointe, on sait que ça doit toujours s'améliorer évidemment. C'est la fin de ce deuxième podcast Monde Numérique spécial CES de Las Vegas édition 2024 en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises qui soutient Monde Numérique à l'occasion du CES 2024 et je les en remercie. On se retrouve demain pour un nouveau coup d'œil sur le CES et alors là, attention les yeux car le salon aura ouvert véritablement. Je vous raconterai ce qui se passe, notamment du côté de l'Eureka Park. C'est l'espace où se trouvent toutes les startups du monde entier. Des centaines et des centaines d'innovations technologiques. Retrouvez également mes petites vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, abonnez-vous à la newsletter de Monde Numérique en allant sur le site mondenumérique.info. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Salut.